Quand t'as dit on sort les maillots, j'ai eu un flash de quand j'étais jeune, il y avait une pub pour un petit rasoir là, épilatoire.
Mm-hmm.
Ça disait faites-vous une belle ligne de maillots. Puis j'étais trop jeune pour comprendre pourquoi. J'étais trop jeune pour comprendre le concept. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme une ligne de mayonnaise. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le rapport avec la mayonnaise, puis l'été, puis les rasoirs? Je comprends.
Ah, oh, j'adore.
Ça explique l'espèce de malaise que j'ai eu quand je t'ai rencontré à Valcartier l'autre fois. Je me posais la question.
Cette voix qui me juge présentement. C'est Martin Thomas Côté qui est avec nous pour la fin de semaine. Martin Thomas qui est un collègue de Kick à Saguenay qui est là depuis une dizaine d'années.
Exact.
Et parce que je le spécifie parce que on a tendance à oublier des fois de présenter les nouvelles voix.
Mm-hmm.
Et comme tu es là pour la fin de semaine et qu'il y a plein de gens qui font comme c'est qui lui, c'est quoi cette voix-là, puis comment ça se fait qu'il est bon de même alors que c'est la première fois de ma vie je l'entends. Parce
ouais,
que j'ai reçu.
Tu m'en barres haute, là.
Ben, écoute. J'ai quelqu'un qui a écrit, c'est une machine, lui, d'où ce qui sort.
Ah ouais, mon ben, Dieu. Eh ben.
Et à ça, je dirais, jusqu'à date, j'ai pas vu aucune preuve que t'es une machine au sens technique du terme. J'ai pas vu aucun piston.
Absolument pas.
Mais mettons un petit pedigree, mettons en 30 secondes.
Hey, en 30 secondes, tu me fais ça vite. Écoute.
Okay, en 20 minutes d'abord.
On prend un bloc à remplir. Non, en fait.
Oui, aujourd'hui avec Martin Thomas Côté.
Merci beaucoup, François. Non, en fait, c'est ça. J'anime à Kick depuis maintenant une dizaine d'années dans le show du matin, qui est le show numéro 1 dans notre région depuis au moins 6 ans. Facile. On a bâti le show moins Dominique Fortin, qui est le morning man là-bas. Quand on a pris ce show-là, on était 6e dans le marché. Ça allait pas très bien. Puis on a réussi à remonter la pente. Moi, je viens, dans le fond, j'ai étudié à l'Université de Montréal peut-être un an ou deux. J'ai abandonné mes études en histoire.
T'as étudié où?
L'Université de Montréal. Moi, j'ai resté 3 ans à Montréal, 3-4 ans. Ouais, je sais, mais ça a été des années formatrices, on va dire ça comme ça. Moi, j'étais un gars qui... Hey, je devrais pas dire ça sur les ondes de Québec. J'aimais pas Québec.
Non.
Parce qu'il y a deux destinations quand tu es au Saguenay puis tu vas aller étudier. Tu vas aller soit à Montréal ou tu vas aller à Québec. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup d'ailleurs qui nous écoutent qui sont des Saguenayens
oui.
d'origine qui sont venus habiter à Québec. Mais moi, Québec, pour moi, honnêtement, c'est comme Boston. Là, ça me fuck complètement. J'ai juste m'en venir à la station ce matin, là, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en allais, aucune idée qu'est-ce que je faisais. Montréal, c'est cartésien. Là,
c'est rectangle.
Moi, je te confirme que je me suis perdu une couple de fois à Montréal.
Ah oui? Ah, bon, peut-être. Mais bref, moi, c'est là que je suis allé.
Pourquoi à Québec, t'es toujours en retard?
Non, c'est faux!
Mais à Québec, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à me situer un peu. Là. Donc, ça va couper court à ma carrière si jamais je veux venir à Québec. Tu parlais de quel quartier tu parlais ce matin un peu plus tôt?
Val-Bélair.
Écoute, moi, j'habite ici depuis 6 ans puis je me retrouve toujours pas.
Ah, okay.
C'est juste qu'en général, je me trouve nulle part parce que j'ai aucun sens de l'orientation, mais...
OK, c'est ça, pas attendre, vous restez prisonnier d'ici.
Oui, moi, je vis
vous
ici.
Juste pur sortir.
T'as pas vu le lit en arrière?
OK, c'est ça.
Honnêtement, j'ai deux vies à Québec. Je suis arrivé ici en 2007. Moi, je suis de Trois-Rivières. Je suis arrivé en 2007 pour faire mon cours de radio au CRTQ. Puis j'ai travaillé 2 ans à Québec. Ensuite de ça, j'ai fait le tour de la province. J'étais un petit peu partout. Mm-hmm. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs.
Exact.
Dans le temps où j'étais à Alma, toi, t'étais à Saguenay. On était pour le même réseau. Et je suis revenu à Québec en 2016. Puis la façon que j'ai trouvé pour découvrir la ville, ça fait pas super longtemps. Je fais de la livraison la semaine.
Ah.
Je suis ici la fin de semaine, puis la semaine, je travaille avec DoorDash parce que travailles pas pour.
Non.
Mais avec ça, là, je me promène un petit peu partout dans Québec. Puis là, j'ai vraiment appris comme il faut à me débrouiller dans la ville. Mais avant ça, je veux dire que... Quand tu viens pas d'une ville, c'est déjà difficile d'avoir des attachements puis de connaître comme il faut les endroits.
Effectivement.
Quand t'arrives dans une autre ville puis que t'es pas obligé d'en parler, tu peux vivre dans, entre guillemets, l'ignorance toute ta vie ou à peu près connaître le chemin entre chez vous puis le bureau. Avec la job qu'on fait, nous...
Il faut que tu connaisses tous les raccoins. Puis tu sais, moi, je suis un peu comme Félix. J'ai pas vraiment le sens de l'orientation. Tellement que à Chicoutimi, où est-ce que j'habite, ça arrive régulièrement qu'il y a des travaux. Et à Chicoutimi, ils se cassent pas la tête. Hein. Ils mettent une pancarte détour, puis après ça, arrange-toi.
Oui.
Tu sais, je veux dire, ils prennent pour acquis que les gens de la région sont dans la région, connaissent la place. Mais moi, même si je reste dans la région, ils m'envoient dans des quartiers des fois, puis je reste prisonnier, là, comme un rat. Je reste prisonnier dans le quartier, genre, plus capable de sortir.
Le truc dans un labyrinthe, c'est que tu tournes toujours à droite, sauf que quand toutes les avenues sont ouvertes, tu tournes en rond.
Ben, c'est un peu ça. Fait que même moi, je continue à chaque fois que je vois une pancarte détour, c'est mon cauchemar, parce que je sais qu'ils m'accompagneront pas. T'sais, au moins, à Québec, vous avez ça de beau, là, quand ils font détour, ils te suivent jusqu'à la fin.
Ah, ça
encore drôle. Puis tu vois, moi, je suis un adepte du GPS, parce que c'est la seule manière de me retrouver. Je me rappellerai toujours une fois où, justement, il y avait des travaux qui n'étaient pas indiqués sur le GPS. J'ai pris la sortie qui m'indiquait. Mais là, lui, il me disait, mais là, il faut que tu reviennes.
Ben oui.
Je revenais sur l'autoroute. à la sortie fermée. Fait que je ressortais puis je revenais. J'ai fait ça trois fois avant de faire là, ça marche pas mon affaire.
Moi, je remercie les créateurs de Waze. Ils m'ont sauvé la vie une couple de fois. Là, quand il y a du trafic ou juste quand il y a des... Ils savent tout le temps. Google Maps, des fois, ils savent pas quand il y a un accident ou quand il y a une route de fermée. Waze, là, c'est toujours et ça me sauve. Du temps et d'énergie.
Ben oui, effectivement, parce qu'on veut pas passer trop de temps sur les routes.
Non.
Personne veut ça. Personne veut ça.
9h10 au FM 93, c'est une conversation... Moi, tu sais, les sports, je laisse ça à mes collègues. Il faut que je me tienne un peu au courant, mais c'est pas ma tasse de thé. Là, ce matin, j'arrive à la station. Félix, regarde, t'as-tu vu le drame sur les réseaux sociaux? Tout le monde qui s'enflamme. T'as-tu suivi le repêchage? Comme non. Je voulais avoir du fun. Fait que j'ai pas écouté les sports.
franchement, c'est là quelle fois.
Normalement, quand t'es en radio, t'es un amateur d'histoire. Et souvent, les plus belles histoires sont dans le monde du sport.
Vraiment.
C'est pas nécessairement la victoire, puis qui a gagné, puis les résultats qui comptent. C'est quand il y a une histoire, puis ce matin, c'en est la preuve, il y a toute une histoire là-dedans.
Puis vois-tu, ça, je le comprends, mais le sport, à proprement dit, j'en ai rien à glander. Mais je vois cette histoire-là, le repêchage de Logan Mailloux par le Canadien, et je comprends le concept, là, je comprends la controverse qu'il peut y avoir. Essentiellement, Logan Mailloux qui a été, il a pas été accusé, mais il a été jugé coupable.
Exact.
OK, il a reçu une amende. Il n'a pas été arrêté.
Non.
Mais amende de 2 000 $ parce que pour diffamation et publication d'une photographie offensante dans le temps qu'il évoluait pour le SK Leon en Suède. Photographier sa partenaire sans son consentement pendant le Tigidi Lai Lai et distribuer la photo à ses coéquipiers par une chaîne de messages texte.
Exact.
Donc, avait dit il y a quelques semaines, quelques mois, je crois pas avoir démontré suffisamment de maturité ou de caractère pour mériter le privilège de me joindre à une équipe de la LNH cette année.
Il a demandé à toutes les équipes de la Ligue nationale de ne pas le repêcher. Ce qui a visiblement pas eu comme mémo Marc Bergevin.
Là. Ben c'est ça. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Repêché par le Canadien cette
année.
Exact.
31e échelon. Ben c'est parce que ça peut paraître comme un deal. Tu sais, tu dis, il y a peut-être des gens qui vont passer par-dessus parce qu'il a fait la demande de ne pas être repêché. Maintenant, quand tu es au 31e rang, tu te dis, OK, ce gars-là aurait pu sortir avant.
Non, mais c'est ça. C'est même pas ça. C'est même pas justifiable au niveau hockey. Dans la majorité des listes de recrutement, il sortait même pas en première ronde. 35e pour Bob McKenzie, 58e pour McKen, 50e pour Craig Budden, 43e pour Draft Prospect Hockey. Et puis ça, c'était avant que la nouvelle sorte il y a 3 jours.
Ouais, mais avec une saison tout croche aussi. Là.
Oui, oui.
Tu sais, les rapports de scout cette année sont difficiles à évaluer. Là.
Mais il y a une question que à la base, puis on jasera sur le fond puis la forme après, là. Mais il y a une question que je me pose. Parce que là, il dit, je ne crois pas avoir démontré, je veux pas être pêché. C'est Marie-Pierre Morin qui s'était retirée volontairement du Gala Artiste cette année en disant, moi, je veux pas susciter de controverses. Prenez mon nom puis brûlez-le.
Mm-hmm.
Pourquoi il n'a pas pris son nom puis le brûlé? Il n'a pas le droit de se retirer lui-même.
Il peut pas. Pas dans un repêchage.
Il peut pas faire comme, hey, FU gang, moi, je ne me présente pas cette année volontairement, puis si vous me repêchez, je vais dire non.
Il peut décider de ne pas signer. Mais il a pas le droit de dire non, je veux pas qu'une équipe s'approprie mes droits de repêchage.
C'est ça. Il peut ne pas se présenter au camp. Il peut décider de jamais y aller, de faire comme si c'était jamais arrivé. Mais les équipes ont le droit de le repêcher. Dans le junior, on voit ça souvent, par exemple, où on va repêcher les Européens qui clairement disent, regarde, repêchez-moi pas, je viendrai pas, oui. Je traverserai pas. Puis les équipes se disent, bah, d'un coup, on prendra pas de chance, on va quand même le sélectionner. Puis si jamais on réussit à le convaincre, puis on réussit à l'amener, ben on va l'avoir eu. Donc
c'est
un peu comme ça.
C'est la même chose avec les Québécois qui veulent jouer dans la NCAA,
exact.
Le réseau américain. Ils peuvent pas jouer un match de la LHGMQ. Fait qu'ils disent aux équipes, repêchez-moi pas, je m'en vais aux États-Unis. Il y a des équipes qui vont le faire pareil parce qu'au cas où ils décident de changer d'idée, ben tu veux que ce soit toi qui l'aille.
Exactement.
OK, ce serait une autre conversation pour un autre moment. À un moment donné, il me semble que tu as le droit de pouvoir décider de toi-même de ton propre avenir. Tu veux pas.
Ben oui, mais il a le droit de pas y aller, là.
Ah ouais,
ouais,
mais
il a le droit de pas y aller.
Mais il a le droit, il devrait pouvoir avoir le droit de ne pas être repêché aussi s'il veut pas, c'est un scrouche. Mais écoute,
Je veux dire, un repêchage, un rendu là, tu sais, c'est que tu rends tes. Les services sont disponibles pour l'équipe. Rendu là, tu sais, je veux dire, pourquoi il pourrait s'enlever son nom?
Ben, c'est ce qu'il a demandé.
Ouais, non, il a demandé de ne pas le repêcher, de passer par-dessus cette année. Mais tu peux pas te retirer du repêchage. T'es admissible.
Techniquement, là, il pourrait, le Canadien de Montréal pourrait annoncer avec son dernier choix de 7e ronde, on repêche Félix-Antoine Audet, le gars avec la bédaine de bière qui fait de la radio à Québec. Puis, ils ont droit, si je décide de jouer dans la Ligue nationale de hockey parce qu'un moment donné, on me trouve un talent exceptionnel, ben, je peux pas signer avec une autre équipe qu'eux.
Je comprends tout ce que vous dites. Je comprends pas le concept, mais...
Ben, bon, en tout cas, il y a une logique. Je comprends.
Mais au-delà de ça, c'est pas ça l'histoire.
Non, non, c'est non, ça. C'est là que je m'en vais, là. Tu sais, il y a un passé judiciarisé, si mm-hmm. on veut, et il a été sélectionné.
Mm-hmm.
Je comprends qu'il peut y avoir une controverse, mais ma position de base, c'est il a payé pour son crime qui a été commis en Suède. À partir du moment où est-ce que il a commis son crime puis qu'il a payé pour, on le fait-tu payer dans tous les pays du monde, dans toutes les situations
du monde?
En
fait, ce que je comprends pas, c'est que, tu sais, le Canadien de Montréal, qui est une organisation au Québec où ce genre d'histoire-là actuellement fait débat, où ça, dans les journaux, c'est quand même presque tous les jours, quand il y a eu des gros mouvements, qu'ils aient pris le risque de repêcher ce joueur-là dans ce contexte-là, je trouve ça plutôt particulier d'une organisation qui, habituellement, là, se tient très loin des controverses. Là.
On parle d'une organisation que le mot magique dont on parle pour tous les joueurs qu'on veut et qu'on a aimé acquérir, c'est caractère.
Bon,
on veut
gars.
Des bons caractères, on veut des gars d'équipe, on veut des gars qui vont être là pour l'équipe. Sauf que là, je m'excuse, tu t'éloignes de ce qui fait la définition, selon moi, de bon caractère.
Oui. Moi, d'un côté, je peux... Il était jeune, hein? Je pense qu'il avait 17 ans.
Il était jeune. Il était il y a quelques mois. Là.
Attends, mais quand même. À 17 ans, t'en as peut-être fait des niaiseries. Je suis sûre que ça n'avait pas été aussi grave. Mais je trouve que la niaiserie est grave, mais qu'il soit sorti publiquement puis qu'il ait assumé son tort. Moi, je trouve que faut t'avouer, premièrement, à moitié pardonner. Puis, je dis pas que c'est correct, là, parce que moi, un gars ferait ça avec moi, je serais pas contente.
Mm-hmm.
Mais... le fait qu'il ait avoué, puis que peut-être que c'est une erreur stupide. Je sais pas comment ça s'est passé, on n'a pas les détails.
C'est pas qu'il l'a avoué, là. C'est que ça a sorti dans les médias parce que la fille a dit qu'il semblait pas très repentant, là.
Mais il a quand même, il est sorti en parlant de son cheminement personnel, puis il a même lui-même demandé de ne pas être repêché. Je trouve que c'est quand même un bon progrès.
Mais le problème, c'est la nature du crime,
oui.
Puis je m'explique. C'est que le geste peut sembler banal et facile. Simple. C'est pas comme tuer quelqu'un, là. Je veux dire, tu prends une photo. Tu sais, nous, on n'avait pas cette réalité-là, jeune.
Non, absolument.
Et c'est impossible, François Jacques, tu ne peux pas me dire, avec un cellulaire dans les mains, à 17 ans, si tu l'aurais fait ou pas. Tu peux pas.
Je peux te dire que je l'aurais probablement fait.
Moi, à 17 ans, là, je n'ai fait des niaiseries qui n'avaient pas d'impact.
Oui.
Le problème de ce geste-là, c'est que c'est un geste anodin qui peut ne pas avoir d'impact, qui, à cause de l'Internet, à cause de la diffusion, à cause de ce que ça représente, parce que c'est des mineurs, ça devient un crime majeur pour la victime. Ce qui était, au départ, une niaiserie de deux personnes qui décident de faire des ébats sexuels, qui se prennent en photo, ça. C'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais l'Internet en fait un crime grave.
Exact.
Et c'est difficile, parce que moi, j'ai des avocats là, qui font des chroniques chez nous, qui se rendent dans les écoles secondaires et qui doivent avertir les jeunes. « Hey, mon chum, si tu prends une photo de ta blonde, même si elle est consentante, puis que tu la partages à ton meilleur chum, c'est du trafic de pornographie juvénile. »
C'est de la production et distribution.
C'est un crime extrêmement grave sur quelque chose qui est très facile et anodin. Moi, je me demande comment on va gérer ça dans l'avenir. Oui. Parce que, honnêtement, là, je pense à tout ce que j'ai fait dans ma vie comme adolescent et le téléphone m'aurait probablement rendu en prison.
On est loin d'être parfait, puis le but n'est pas de dire il mérite pas la prison, il mérite pas la mort, là. On n'est pas en train... Mais ce qu'il a fait, je pense que de minimiser ça à une petite erreur de jeunesse, je comprends là qu'il y a 17 ans, quand c'est arrivé, c'est il y a quelques mois. C'est pas comme si c'était il y a 4 ans, puis qu'on retournait dans le passé. Et je crois que honnêtement, avec une faute comme ça... Il revient l'an prochain, il a fait son parcours, c'est une chose. Il a demandé, puis justement, il a eu la maturité de dire, regarde, je comprends que c'est pas une bonne idée que je sois repêché, c'est pas une bonne idée, je ne mérite pas ce privilège-là. Et le mot magique, c'est privilège. C'est pas donné à tout le monde de jouer dans la Ligue nationale puis de gagner ta vie à faire la passion de bien des gens puis de vivre avec ça. C'est un privilège et il a compris qu'il ne méritait pas cette année. Je veux dire, il mérite pas 8 ans de prison. Mais
est-ce qu'il a compris qu'il méritait pas cette année ou son agent a décidé qu'il méritait pas cette année?
Ça, on le sait pas.
C'est ça. C'est-tu un stunt pour dire « Ah, je suis repentant. » D'un autre côté, dans On The Side, tu vas négocier avec les autres équipes en disant « Ben, on va essayer de se repentir. Puis si vous le sélectionnez, on va se la jouer tranquille pendant 2-3 ans. Gardez-le dans les ligues mineures, le temps qu'il évolue, qu'il prenne du gabarit, qu'il prenne du coffre, qu'on oublie un peu cette histoire-là, mm-hmm. qu'il soit passé de mineur à majeur. » Puis après ça, t'es embarqué dans l'équipe.
Mais tu sais, moi, j'ai parlé comme un gars, là. On a une fille dans le show, là.
Mm-hmm.
Quel message ça t'envoie? Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu vois ce jeune-là qui a fait un geste comme celui-là, qui, pour la victime, là, est difficile d'effacer. Tu sais, on le sait, là, on l'a vu avec les combats contre Pornhub. Ces vidéos-là, ces photos-là, des fois, peuvent rester là, ad vitam aeternam. Ça peut briser des vies, un geste comme celui-là. Aussi banal puisse-t-il être, qu'on lui donne cette... Comme fille, tu te sens comment?
Ben, honnêtement, l'acte, moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, tu me corrigeras, Félix, là, ou...
Oh, oui, vas-y.
Je pense que la photo a été prise avec consentement. Non. La fille voulait être prise en photo.
Je pense que c'est sans consentement.
L'acte était consentant, mais la fille, là, essentiellement, on va dire les choses comme elles sont. C'était une fellation qui se faisait, puis il l'a pris en photo sans qu'elle sache. Exactement. Il l'a partagé sans qu'elle sache.
Je trouve, ben, moi, honnêtement, c'est quand même très grave. Là. Moi, je pensais que c'était peut-être une photo, une nude. Là, parce que moi, j'ai déjà entendu des histoires au secondaire d'une fille à mon école qui avait envoyé une nude à un gars. Mm-hmm. Puis le gars l'avait partagé avec 8 gars de sa gang. Il l'avait envoyé dans une conversation. Puis tous les gars avaient la photo. Puis ça, je me dis, garde, c'est un gars qui est fier d'avoir reçu une photo de sa blonde. Mais je trouve ça complètement con. Mais j'aurais peut-être pas été aussi fâchée. Mais ça, ce que tu me dis, moi, je trouve ça horrible. Et là, tu me dis ça, et ça me fâche, et je pense pas que le gars mérite d'être dans une équipe de hockey. Puis je vais le voir jouer avec le Canadien, mettons. Je vais pas être, oh wow, t'as fait un but. On dirait que ça va m'écœurer un peu.
Hey, je prends ça, puis je l'envoie d'une autre direction.
Ouais.
Il a pas le droit de jouer dans une équipe de hockey professionnel pendant combien de temps?
Ben, le fait qu'il a assumé, moi, je trouve que ça a été très bien que, premièrement, ils disent « Retirez-moi du repêchage cette année, je veux pas être repêché. » Puis ça aurait dû rester de même, mais en même temps, comme tu dis, il y a pas le choix. Mais un an off, là, puis dire « Je reviens, je prends du temps pour moi, je consulte au pire, je vais faire un progrès personnel », on dirait que ça, je l'aurais pris. Là, quand il joue au hockey, on dirait que c'est comme « off, c'est facile pour un gars. » C'est facile.
Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire ça, mettons?
En même temps, ce que je te dirais, c'est que dans une organisation comme celle du Canadien, qui est habituellement une organisation pure et blanche, là, ouais. Il n'y a pas plus sain que le Canadien. Il va être bien entouré, par contre. Et ça me surprendrait pas que, justement, on insiste sur beaucoup de choses là, pour qu'ils puissent être repentants. T'sais, le Canadien, ils sont experts là-dedans aussi. Là. Ouais. Donc là, ils se sont... Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont sorti comme communiqué ce matin. Là. Ils ont dit, on est conscient du choix qu'on a fait. On est conscient de ce que le petit gars a fait. Mais inquiétez-vous pas, non seulement on va l'entourer, on va lui faire comprendre des choses, puis on va s'assurer que ça soit la meilleure des personnes. T'sais, on peut y donner une deuxième chance. Ouais. C'est ce qu'il dit.
Ouais.
Parce que moi, ce que je pense, là, c'est que ça a été une réaction extrêmement émotive durant la nuit, suite à l'annonce de ça, puis qu'on est tout le monde a comme réagi là, immédiatement. Puis sincèrement, avec la conversation qu'on a là, je pense qu'on est en train de se dire, ben, si on lui laisse du temps, si on l'encadre bien, puis que dans 3-4 ans, il arrive au jeu, puis qu'il montre qu'il a compris, qu'il était repentant, puis tout ça, il peut peut-être, on peut peut-être passer par-dessus s'il a payé sa dette à la société.
Ouais.
Et là, je pense qu'on a peut-être le nez trop proche de l'événement, trop proche de son crime et trop proche du repêchage pour avoir une réaction pas émotive, une réaction cartésienne sur la
repêchage. J'aurais donné un an, mettons.
Et j'aime pas le mot à la mode, mais c'est un crime aussi dont on entend énormément parler. Oui. Tu sais, je veux dire, le Flo aurait fait une ligne de coke sur le derrière d'une prostituée. Je suis pas sûr qu'on en parlerait ce matin.
C'est pour ça que ça me frustre, parce que je me dis le fait qu'il aille un peu facile, que finalement il va pouvoir jouer, c'est peut-être que ça banalise l'acte. Puis il y en a qui vont se dire une photo, c'est pas grave, je vais le faire. T'as vu le petit joueur de hockey, lui, ça a passé dans le beurre un peu.
Mais c'est ça, le point sur lequel je terminerai là-dessus, là. C'est justement tout ce qui me fâche le plus de tout ça, puis ce qui fâchait sur les réseaux sociaux beaucoup de gens, c'est tous ceux qui venaient à dire que c'est un geste anodin. Mais moi, je serais vraiment curieux si ça arrivait à la fille, la mère, la sœur, ou l'ex-conjoint de votre conjointe qui faisait ça. Si soudainement ça semblerait si anodin, ce serait les premiers à dire que ce gars-là, c'est un méchant qui mérite pas de jouer au hockey.
Ben vois-tu, quand tu dis geste anodin, moi quelqu'un qui a réagi en disant ça, je considère que c'est une réaction aussi émotive que ceux qui veulent l'envoyer au bûcher tout de suite. C'est absolument pas anodin d'avoir pris une photo de ta partenaire non consentante. C'est absolument pas anodin de l'avoir mis sur les... Ben, pas sur les réseaux sociaux, mais...
De l'avoir partagé.
Tu sais, je veux dire, ça n'est pas anodin, ça vient pas... Tu peux pas minimiser le geste en disant « Oh, il y a rien qui fait ça, il y avait rien qui dit ça. »
En fait, c'est qu'il faut... Je pense que c'est l'éducation qui est la solution toujours. Il faut faire comprendre à nos jeunes qu'ils ont entre les mains une arme maintenant.
Absolument.
Qui s'appelle le téléphone cellulaire, qui est branché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur des réseaux sociaux qui ont accès partout dans le monde. Et que tu peux scraper une vie avec quelque chose qui, il y a 20 ans, était peut-être un peu plus banal. Tu sais, je veux dire, t'as un Polaroid chez vous, puis tu prends en photo ta blonde tout nue. Elle va peut-être circuler, là, mais elle circulera jamais autant.
Avec un Polaroid, il faut que tu passes en photopieuse.
Ben, c'est ça que je te dis. Là. Elle circulera jamais. T'sais, moi, j'ai déjà vu ça dans mon école secondaire. Là. Une photo nue d'une jeune fille qui s'était faite photocopier une dizaine de fois puis ça avait été circulé dans l'école. Mais ça arrêtait là.
Oui.
Ça passe à gang de chums puis le monde qui sont allés à l'école. Là. Au moins, on a pu... C'est la conséquence du geste qui est terrible. C'est que C'est énorme, là. On a vu, là, je pense que c'était un comité au Parlement de canadien où on a parlé de Pornhub, de la fille qui a essayé d'effacer son vidéo. Là,
Oui.
Qui est pas capable. Elle est juste pas capable. Ça, il y a 20 ans, là, tu pognais la cassette, tu la mettais dans le feu, c'était terminé. Tu disais, étourderie de jeunes, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Mais plus maintenant. Ça n'existe plus.
T'sais, le même geste n'a pas la même conséquence.
Exactement. C'est aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
Exactement. Il y a 20 ans, t'étais dans une tourbière.
C'était tout aussi con en passant, là.
Oui, absolument.
C'était tout aussi con.
Il y a 20 ans, t'étais dans un terrain avec juste de la terre, puis tu mettais le feu à terre, là. Mm-hmm. Le feu, il prenait pas, là. Tu t'en vas dans le même champ 20 ans plus tard, c'est rempli de foin sec. Mm. C'est juste parce que le temps a passé. La même étincelle va partir d'un incendie.
C'est un bel exemple.
Uniquement parce que le temps a passé puis que la situation, alors, là où tu crées l'événement, n'est pas la même.
Alors, la solution, c'est l'éducation. Je pense que nos jeunes, là, face à la technologie, face au système de justice, dans des choses qui sont essentielles maintenant de savoir, qui à notre époque l'étaient peut-être un peu moins, ben c'est là qu'il faut commencer. Là. C'est nos gars, c'est par l'éducation qu'on va y changer.
Là où je me porte en faux sur certaines personnes, c'est que on dit qu'il a pas payé assez cher pour son crime, il a pas eu des conséquences assez fortes. Là-dessus, je suis obligé de dire que le geste a été commis en Suède, puis que c'est les lois de la Suède qui ont précédé.
Exact. Ouais.
À partir du moment où il a payé sa dette en Suède, là c'est ça, c'est là mon affaire où je reviens à est-ce qu'il faut vraiment le faire payer aussi au Canada? Est-ce que après ça, s'il était changé une équipe aux États-Unis, s'il était changé une équipe en Russie, cette histoire-là, oui, ça va le suivre toute sa vie. Mais est-ce qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans son statut, faut que ça le suive, puis faut qu'il repaye une autre fois? C'est là que je décroche un peu. Puis là, comme je le répète, puis c'est ça va être pas mal mon point final sur ça, ma position à moi, faites un geste répréhensible, mais on est encore trop collé, je pense, sur l'événement pour être capable d'avoir une conversation cartésienne. Puis je dis « on est en train d'en avoir une présentement ». Puis je pense qu'on a calmé nos ardeurs, à ma connaissance. Mais je suis convaincu que l'Organisation du Canadien va le « cacher », entre guillemets, pendant 2, 3, 4 ans. On va le développer en tant que joueur. On va laisser cette histoire-là mourir tranquillement. Et quand ça sera le temps de le ressortir, on n'en parlera plus parce que ça va faire la manchette en date d'aujourd'hui, un 24 juillet 2021. 9h26.